Voilà, comme ça. Mets-la. Alors, la caméra passe.
What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No,
no. Not wounded, sir.
Che fai, gradisci?
Ma sta tappando, che fai?
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa che fisso? Come fa che fisso?
Cinéphiles, amoureuses, amoureux du cinéma, mais pas que, bienvenue, c'est le retour et le grand retour de Cinémascope qui va faire palpiter votre cœur de spectateur et vibrer vos paupières endormies, en tout cas on l'espère. C'est le retour de votre magazine du cinéma en Sud-Ardèche. Vous avez donc bien fait de vous arrêter sur les ondes de fréquence 7. Et pour cette nouvelle saison, nous continuerons évidemment de parler de cinéma, de son actualité, ici dans les salles de projection fixes, itinérantes ou improvisées d'Ardèche. Nous le ferons avec la fine équipe des cinéphiles que vous aviez l'habitude d'entendre, mais aussi avec de nouvelles voix. Et on a par exemple aujourd'hui Violetta, mais qui est avec nous. Qui est avec nous
pour prendre la température.
Pour prendre la température. Mais il y a aussi les fidèles Didier et Olivier. Bonjour.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Et puis derrière la console, Nico. Salut Nico.
Ouais. Salut tout le monde.
On parlera donc de l'actualité du cinéma, et puis pour prolonger votre désir et votre plaisir de spectateur, on mettra aussi quelquefois en lumière les DVD et autres livres de ciné que vous pourrez emprunter à la médiathèque d'Aubenas et qui font écho à l'actualité des films à l'écran. On continuera aussi de passer des petits coups de téléphone pour donner la parole aux organisatrices et organisateurs d'événements de cinéma. Voilà un peu le programme de cette saison, toujours avec de la bonne humeur, on l'espère.
De la mauvaise humeur aussi.
Et oui, je sens qu'il boue à côté de moi.
Et puis voilà.
Et la rentrée donc ciné est évidemment très très dense, donc on va essayer surtout de parler de quelques films parmi les très nombreux à l'affiche. On parlera donc de Anatomie d'une chute, L'été dernier, Acide, Mystère à Venise, et puis, si vous voulez conseiller d'autres films, on conseillera d'autres films.
Mais... On peut en déconseiller aussi.
Et on peut en déconseiller aussi, si ça te fait plaisir, puisque tu boues. Et
bon, mais c'est pas tant que ça, c'est juste pour la blague. C'est juste pour la blague.
C'est parti, on dissèque le premier film.
I just want you to know one thing. I'm not a monster.
Tu peux prendre un casque si tu
veux. I need you to be precise. Tell me everything.
Yes.
I don't know what happened. I think he fell off that third floor. The window's open.
The autopsy report is inconclusive. An accidental fall is going to be hard for us to defend. That's why there's an investigation for a more suspicious death. Because you were the only person there. And of course, you're his wife.
Stop. I did not kill him.
That's not the point.
That's not the point. Anatomie d'une chute de Justine Triet qui a reçu la Palme d'Or 2023 avec Sandra Hüller qu'on a entendu, excellente actrice comédienne allemande, Swan Harlow notamment, et Milo Machado Graner, je ne sais pas comment on prononce Graner. Donc Palme d'Or pour la réalisatrice de Sibyl Victoria et la bataille de Solferino, c'est son quatrième long métrage. Un beau film pour moi sur l'ambiguïté des choses, leur complexité. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, qui veut prendre la parole? Didier, Olivier?
Bah, je vais commencer. Voilà, j'en ai pensé beaucoup de bien, énormément de bien. C'est une des plus belles palmes d'or depuis très longtemps et qui, en plus, ça fait très plaisir, reçoit l'assentiment du public, puisque là, on va, ou on vient de dépasser, ou on va en tout cas vers le million d'entrées. Et je pense que c'est pas tout à fait terminé. Donc, ça fait quand même très longtemps qu'on avait vu un film français palme d'or avec autant de spectateurs. Alors, Anatomie d'une chute, c'est un film, je trouve, moi, qui vient de loin. Donc le pitch un peu peut-être rappeler très très rapidement, un couple d'écrivains dans un chalet isolé dans la montagne avec leur fils qui suite à un accident avec le père est aveugle, enfin en tout cas ou presque aveugle. Et on retrouve le père dans la neige après une chute, donc d'où le titre Anatomie d'une chute. Et donc le film va ensuite disséquer l'anatomie d'une chute, effectivement. Donc d'où vient cette chute? Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est un crime? Est-ce que c'est un suicide? Donc je n'en dirai pas plus sur l'histoire en elle-même. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est un film à... On ne peut pas dire que c'est un polar, c'est trop simple et tout. Donc c'est un film à trois thématiques. C'est pour moi, c'est un film sur le couple. Donc, c'est vraiment une histoire de couple, ça c'est très très clair. Hein. C'est-à-dire avec un dominant, un dominé. C'est un polar, parce qu'on a quand même ce suspense. Est-ce que c'est un acte criminel? Est-ce que non? Est-ce que voilà. Et c'est aussi un très beau film de procès. Et quand on sait combien c'est difficile à réaliser, c'est-à-dire tenir en haleine des spectateurs dans une seule salle avec des gens qui parlent, c'est quand même pas très très évident. Et là, ça fonctionne absolument parfaitement. Et pour moi, c'est un film qui vient de très loin, parce que tu rappelais tout à l'heure que c'est son quatrième film. Et je trouvais que jusqu'ici, c'était une réalisatrice tout à fait honorable, mais rien ne permettait, si j'ose dire, rien ne permettait d'attendre un film aussi maîtrisé que ça. Mais en fait, quand on reprend les films précédents, en particulier Victoria, donc avec Virginie Efira et Vincent Lacoste, on s'aperçoit que dans Victoria, il y a déjà une histoire de tentative de meurtre dans un couple. Donc il y a quelque chose qui est déjà posé là. Dans Sibyl, qui arrive après, toujours avec Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos et déjà Sandra Hüller, c'est déjà l'histoire d'une écrivaine qui s'inspire d'une histoire vécue par une autre personne, qu'on va retrouver dans ce film-là. Mmh. Et moi, j'ai eu l'impression, en voyant ce film, qu'il y a eu une espèce de série de préparations, d'essais, de choses comme ça, et que tout d'un coup, on aboutit, le mot n'est pas trop fort pour moi, à un chef-d'œuvre. Alors j'ai juste une toute petite, un tout petit hiatus. Durant le procès, j'ai pensé que le rôle de l'avocat général était peut-être un peu exagéré, un peu poussé, y compris de la part du comédien. Mais bon, c'est très très peu de choses par rapport aux autres qualités que le film développe. Il y a pour moi un temps très très fort dans le film, c'est la séquence que je trouve centrale aussi dans le film, c'est une scène de ménage dans le couple, qui est d'une force, mais quelque chose tout d'un coup ça nous saisit. Je vais pas dire que rien ne nous préparait à ça, mais presque, quoi, parce que c'est tellement fort, tellement puissant, et ça monte tellement en tension que ça en devient presque insupportable pour le spectateur. Et je vais peut-être en faire bondir certains, mais pour moi, j'ai vraiment pensé là aux scènes de la vie conjugale de Bergman. J'ai retrouvé quelque chose d'aussi puissant que ça. Et on ne peut pas évidemment ne pas saluer la performance de comédienne, même si tous les comédiens sont bons dans le film, mais surtout de Sandra Hüller, qui est absolument magnifique ici.
Oui, entièrement d'accord avec Didier. Évidemment, moi j'adore me faire un peu l'avocat du diable. Ceci dit, avant de me faire l'avocat du diable, l'avocat général, aussi outrancier que dans le film, souligner compléter de certaines manières ce que disait Didier à propos de cette scène de ménage, qui est à laquelle les spectateurs assistent, mais pas les membres du jury dans le tribunal. C'est-à-dire, c'est assez particulier parce que le spectateur a un privilège, il assiste à quelque chose à quoi personne n'a assisté. Donc c'est assez particulier. Je me demande si ça ajoute pas à la force de cette scène qu'effectivement on peut mettre au rang des plus fortes scènes du genre. Mon petit bémol, si je, parce que la critique, ça a été une somme de dièses. Hein. Je veux dire, il y a un cœur critique autour de ce film, à juste titre, encore une fois. Mais nos confrères de France Culture s'étaient amusés, j'aime bien dire nos confrères de France Culture, s'étaient amusés à faire un débat, et il y avait un type qui était là pour se faire l'avocat du diable quand même.
Ouais.
Et il avait souligné peut-être le côté un peu surfabriqué du film. C'est vrai que j'irai pas jusqu'à dire que ça sent la transpiration, mais il y a du travail, en particulier au montage, c'est fantastique, mais effectivement, parfois, on a l'impression que les échafaudages sont encore un peu là. Voilà, bon, ça, c'était le seul petit bémol que je souhaitais apporter, mais qui ont eu, sur moi, un effet décisif, c'est que ce film ne m'a pas forcément fait, au plan strictement affectif, ce que m'ont fait ces derniers temps, ou avant les vacances, certains films. Je pense par exemple au Bleu du Caftan, qui, d'une certaine manière, est peut-être techniquement moins impressionnant, moins fouillé, moins tout ce qu'on voudra, mais dont on ressort, la projection, on en ressort avec quelque chose de... comme si quelque chose de vraiment intime s'était passé en nous, qui peut-être ne se passe pas à la vision de...
Oui, alors je suis assez d'accord, mais je pense que c'est pas du tout le même genre de film.
Non,
et qu'effectivement, il n'y a aucune volonté de la réalisatrice de nous emmener vers l'empathie.
C'est ça.
Est, bon, peut-être envers le fils à certains moments, envers le
ouais,
gamin.
Mais très peu.
Mais c'est pas du tout le but du film. Le film est ailleurs.
Ouais, et justement, et en plus, bah, avec un titre comme ça, Anatomie d'une chute, il y a quelque chose de l'ordre de vraiment de l'autopsie.
C'est clinique.
On est dans des paysages blancs, froids. On est dans la montagne, dans des chalets.
Tout blanc. Hein.
Et c'est vrai que ça ajoute. Je dirais aussi juste une chose, pour moi c'est vraiment un film aussi sur les couches de réalité. En fait, certaines choses, ça me l'a rappelé quand tu parlais justement de cette scène de...
dont nous avons l'exclusivité.
Conjugale, voilà, ouais, exactement. Ce qui est dévoilé ou ce qui ne l'est pas va vraiment influencer, en l'occurrence, le jugement. Et donc la réalité va se... le jugement va se composer de petites pièces de réalité qu'on peut ou qu'on ne peut pas, ou qu'on peut ne pas dévoiler. Et je trouve ça assez fascinant parce que c'est vraiment... on tient un peu de choses et je trouve que c'est assez juste.
Et d'ailleurs, d'autant que, pour aller dans ton sens, d'autant qu'à mon avis... l'énigme subsiste.
C'est l'ambiguïté. C'est ce qu'on appelle une fin ouverte. Mmh. Et d'ailleurs, c'est un film aussi, quand on dit c'est un film de procès, c'est presque plus un film sur la justice,
oui,
puisqu'il est très clairement dit à un moment dans le film qu'un procès n'est pas là pour faire éclater la vérité, mais pour faire passer de la justice.
Exactement.
Et que, à un moment, un verdict est rendu et... le verdict devient la vérité, mais c'est pas ça. Forcément
non, la vérité.
La vérité.
Et c'est d'ailleurs ce qui est dit à plusieurs reprises aussi lors de ce procès, c'est que oui, tu dis justement, la vérité n'est pas l'important. Ce qui est important, c'est ce qu'on raconte et ce qu'on veut raconter. Et je pense que ce film raconte quelque chose, et c'est presque comme une poupée gigogne. Il raconte des choses et il raconte effectivement que la réalité finalement ce n'est qu'une...
Il y a énormément de
qu'une fiction.
Cela, on a abordé quelques thèmes. Il y a aussi le thème de l'écriture. Il y a énormément thèmes qui sont
la création artistique en général
dans ce film et qui est vraiment véritablement un petit chef-d'œuvre pour moi, vraiment.
Ouais, avec le rôle aussi très intéressant du fils qui devient presque juge et du chien.
Ce chien
que de...
Non, mais absolument.
Anatomie d'une chute, donc, que vous pouvez voir en ce moment à Aubenas et Privas, et qui sera en tournée à Tueil le vendredi 29 et puis dans d'autres cinémas. Si vous voulez revoir les films avec le regard qu'a donné Didier, justement, si vous voulez revoir d'autres films de Justine Trier, sachez qu'Almédiathèque d'Aubenas est disponible à l'emprunt Sibylle et Victoria. pour se refaire.
Et la bataille de Solferino aussi, je crois, non?
Et la bataille de Solferino, je ne pense pas.
Peut-être pas.
Voilà.
Mais qu'on peut voir sur toutes les bonnes plateformes.
Je ne connais pas.
Il y a d'excellentes plateformes.
Je ne connais pas.
Allez, on continue.
Théo va venir vivre chez nous. Ça fait un bout de temps que Pierre rêve de se rapprocher de son fils, c'est l'occasion. Bonjour Théo. Qu'est-ce que t'as grandi ?
Je vais chercher des clopes, tu m'accompagnes ?
Des fois, tu ne dis pas que je suis un vieux con ?
Jamais.
Théo, lui, me considère comme un vieux con. Hier, il m'a dit que j'avais adopté les filles uniquement pour me donner bonne conscience.
Tu veux une bière ?
Mais il va falloir d'abord passer par le magnétophone.
Il va falloir me raconter ta première fois.
Assieds-toi, j'ai hâte de parler. J'ai eu des vrais échanges avec Théo. Il m'a dit que vous deux, vous... que tu as eu une liaison avec mon fils.
Tu vas pas me dire que tu l'as cru une seconde.
T'as fermé ma bouche, bien.
Ah, eh ben oui, mais ça, cher Olivier, si on n'est pas son casque et si on ne sait pas ce qui passe à la radio, on ne sait pas quand on est en direct ou pas fermer sa bouche. Parce qu'il n'a pas vu, du coup, de film de Catherine Breillat que l'on vient d'entendre l'été dernier. Film avec Léa Drucker, Samuel Kirchner, Olivier Rabourdin. Didier, toi, tu l'as vu ?
Oui, j'ai vu presque tous les films de Catherine Breillat. J'en suis pas plus fier que ça, mais c'est comme ça. Alors, je vais resituer un petit peu Catherine Breillat. Oui. Donc, Catherine Breillat, c'est une réalisatrice française qui a 75 ans, qui a eu pas mal de soucis dans sa vie et qui, depuis qu'elle fait du cinéma, donc depuis les années, milieu des années 70, hein, donc ça nous ramène quand même relativement loin, creuse une sorte de sillon, alors avec des films intéressants, mais le propos qu'elle tient depuis tout ce temps-là, si je le résume en quelques phrases, c'est l'amour en termes de sentiments n'existe pas. C'est une
invention.
C'est une invention jolie peut-être, mais ça n'existe pas. Donc n'existe que la passion amoureuse physique qui, de toute façon, va être très malheureuse. Donc. Quand on a fait une vingtaine de films sur cette thématique-là, c'est vrai qu'à un moment, ça devient un peu fatigant, quoi. Enfin, pour moi, en tout cas. Alors, je vais rappeler quelques titres. Et déjà, dans les titres, on voit bien quoi, une vraie jeune fille, 36 fillettes, Amasseur, Parfait Amour, Anatomie de l'Enfer, Romance X avec Rocco Siffredi, abus de faiblesse, qui raconte une histoire qui lui est arrivée, où elle a été sous emprise. Voilà, donc c'est quand même du cinéma raide, quoi, des choses comme ça. Et là, elle choisit, pour moi, c'est de la fausse transgression, l'été dernier, donc l'histoire en deux mots. Un couple de bourgeois fortunés, lui est chef d'entreprise, elle est une grande avocate, et ils vivent tous les deux, et débarquent. Le fils du mari qui a 17 ans, qui est un petit rebelle, qui s'est fait virer de partout et dont le père s'est jamais beaucoup occupé et qui débarque dans la famille. Et lui, donc 17 ans, et l'épouse, donc incarnée par Léa Drucker, 50 ans, vont avoir une liaison amoureuse, donc, mais, d'où les sentiments sont quand même relativement exclus, puisque c'est Catherine Breillat, quoi, des choses comme ça. Donc voilà, alors ça se veut très transgressif, c'est juste un peu ennuyeux. Je suis vraiment pas rentré là-dedans, ça m'intéresse pas. Le môme là qui s'appelle Samuel Kirchner est absolument mauvais. Il a deux expressions, l'expression rebelle et l'expression charmeuse. Dans les deux cas, on a juste envie de lui donner une paire de baffes. Tellement il est insupportable, quoi. Donc on comprend même pas comment cette femme de 50 ans, qui est très belle, intelligente, cultivée, réussie professionnellement et tout, se laisse charmer par ce petit con. Voilà. Enfin bon, moi c'est mon avis, hein. C'est mon avis. Alors il y a quand même quelque chose de très très bien dans le film. c'est Léa Drucker, ah, oui, qui est exceptionnelle, puisque ce qui est quand même intéressant, mais même si c'est du Catherine Breillat, c'est la façon, évidemment, c'est une histoire qui va se savoir relativement vite, quoi, cet adultère, et la façon, que je ne raconterai pas, dont l'épouse Léa Drucker va réagir par rapport à ça, qui est absolument atroce, qui est extrêmement difficile, mais bon, c'est toujours Catherine Breillat, on ne va pas faire dans la dentelle. Voilà, c'est peut-être les deux choses intéressantes dans le film, mais alors peut-être que si on, c'est le premier film de Catherine Breillat qu'on voit, je pense que oui, pourquoi pas, quoi. Quand on en a vu 15 avant, moi j'ai toujours un peu l'impression que ça raconte la même chose, et puis toujours avec cette idée de fausse transgression dans Romance X, donc on disait, c'est vrai ou c'est pas vrai que les scènes de sexe avaient été réalisées avec de vraies pénétrations, tout ça, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. Quel intérêt de poser la réputation d'un film là-dessus, et je trouve que là, c'est un peu la même chose, voilà, donc je m'arrêterai là pour que quelques personnes continuent
à voir, pour les personnes vierges peut-être du cinéma de Catherine Breillat,
pour s'en faire
une idée. L'été dernier, c'est à Aubenas, à Priva et à Valls le 27 septembre, au Taï aussi la semaine prochaine. On continue dans une toute autre ambiance.
Personne ne sortira avant que je sache si les morts tuent les vivants. Tu étais caché ici depuis tout ce temps?
À qui parlez-vous ?
À qui parlez-vous ?
Oui.
À qui ? À toi, Olivier. Je te parle. Allô ? Mystère à Venise de Kenneth Branagh. Après Mort sur le Nil en 2022 et Le Crime de l'Orient Express en 2017.
Oui.
Tous les deux, d'ailleurs, à la médiathèque d'Aubenas. C'est la dernière adaptation par Kenneth Branagh d'Agatha Christie. Mm-hmm. Alors, mystère au singulier, mais ça, c'est aussi dans le livre d'Agatha Christie, mais mystère au singulier, je me suis demandé, puisque quand j'ai préparé la bande-annonce, qui dure plus de 2 minutes 30, hein, je voulais couper en à peine 20 secondes, on a l'impression d'une surcharge de mystère. Alors, est-ce qu'il y a seulement un bon gros mystère, ou est-ce qu'il y en a plusieurs ?
Ouais, je sais pas, parce que ça, c'est le titre français. Le titre anglais, c'est A Haunting in Venice, ça veut dire quelque chose de hanté à Venise. Et donc, ce serait plutôt le palais, le palazzo vénitien, 16e, 17e, 18e siècle, là, qui est hanté. Donc effectivement, plus, comme tu le dis, hein, d'ailleurs, plus accumulation de mystères que un mystère. Et puis c'est adapté d'un roman d'Agatha Christie, Le Crime d'Halloween.
Oui, ou La Fête du Potiron.
Ou La Fête du Potiron avant. C'est-à-dire, ça s'est intitulé La Fête du Potiron jusqu'en 1999. Et à partir de là, ils ont changé Le Crime d'Halloween. Bon, bref. Toujours est-il que voilà, non, effectivement, c'est plutôt d'abord une ambiance qui a été reconstituée par Kenneth Branagh. C'est beaucoup critiqué par la critique, qui trouve que il en fait beaucoup, que ses films coûtent cher, c'est 55 millions pour Le Crime de l'Orient Express, c'est 90 millions pour Mort sur le Nil, là c'est 60 millions, on parle de dollars, c'est beaucoup d'argent, mais moi je fais partie du public conquis, c'est-à-dire que je trouve que cet argent il est bien employé, il sert à payer des acteurs et des actrices qui sont bons, il y a Camille Cotin ici dans Mystère à Venise qui est bien plus à sa place que dans Tony en famille, dont je ne dirai rien, voilà, mais Camille Cotin elle est superbe dans ce film de Kenneth Branagh. Et puis Kenneth Branagh, il est familier de ce genre de film, il s'entoure en particulier au niveau de la musique, c'était Michael Green qui s'était occupé de la musique pour les deux premiers. Pour le troisième, alors je me lance dans la prononciation, Hildur Guðnadóttir, c'est une musicienne, je t'en prie, c'est gentil. C'est une musicienne islandaise qui a 41 ans, qui s'est déjà illustré en faisant la musique de Joker, d'autres films un petit peu tendus comme ça, voilà. Donc c'est très réussi. Encore une fois, je veux dire que l'argent est bien placé et à l'arrivée, effectivement, on est. Alors, je vais en parler dans un livre, un film. La première émission Un livre, un film sera diffusée le 1er octobre. Je la ferai sur cette adaptation au cinéma de ce roman d'Agatha Christie, donc une enquête d'Hercule Poirot. Je veux dire, du point de vue de l'adaptation, c'est magistral parce que on va avoir conservation de l'unité de lieu, de l'unité d'action, de l'unité de temps. On va avoir conservation d'éléments d'intrigue. Alors là, je dévoile évidemment rien, mais des éléments d'intrigue, mais dont Kenneth Branagh, aidé de son scénariste, tu as son nom. Moi, je l'avais noté quelque part. Michael Green, son scénariste. Oui, son scénariste. Donc, ils font un travail absolument fabuleux. Parce que moi, je sors de la lecture du roman. Je me suis plongé immédiatement dans le film. Ça nécessite d'avoir du roman et ensuite du montage du film une maîtrise absolument incroyable, parce qu'il va isoler des morceaux pertinents d'intrigue, il va les recoller différemment, en faire un autre usage pour obtenir quand même une unité d'action qui est un whodunit qu'il a fait. D'ailleurs, le mot est pendant. J'étais à côté de Violetta au cinéma et on parlait de ça. Effectivement, à un moment donné, Hercule Poirot prononce le mot « whodunit », qui est le nom d'un genre de polar. Donc, il y a petit clin d'œil sur le genre de polar, le polar, donc le roman d'Agatha Christie, et son adaptation au cinéma. Donc, et l'unité d'action, c'est le whodunit, justement. Qui a fait ça ? Et alors là, en plus, Agatha Christie et, par contre-coup, Kenneth Branagh nous soignent, parce que c'est un whodunit absolument extraordinaire. Ça sort de on ne sait pas où, et on a beau être un lecteur ou un spectateur attentif, je veux dire, on est cueilli quand même par la solution. Donc, moi, je suis bon public, je l'admets, hein, public populaire, enfin voilà. Je rentre, je regarde ça, je repars content.
Ça fait du bien.
Oui.
Ça fait du bien. Violetta.
On prend un réel plaisir visuel, en fait, oui. Parce que le Palazzo, en fait, c'est un personnage, en fait, en lui-même, quoi. Et on est vraiment. On est pris dans ces atmosphères qui sont différentes, et on passe en fait d'étage en étage. Enfin, c'est vraiment moi je suis comme Olivier, j'ai été vraiment très très conquise par ces atmosphères différentes en fonction des paliers.
Oui, en fonction, et effectivement, comme tu dis, de paliers, parce qu'on va du bord de l'eau qui s'engouffre, voilà, dans le palais, et on peut monter jusqu'à la chambre de l'héroïne, ouais, voilà.
Tout à fait.
Moi, je n'ai pas encore vu, mais je voulais juste te dire, je suis assez client des adaptations d'Agatha Christie par Kenneth Branagh. Oui. Et je pense que ce qu'une certaine intelligentsia critique lui reproche, c'est de venir d'ailleurs. Kenneth Branagh, on l'a connu avec des adaptations de Shakespeare extrêmement réussies, etc. Et
je pense qu'il y a une partie de la critique qui
a du mal à lui pardonner de passer de Shakespeare à Agatha Christie. Ouais.
D'accord. Bah, tu m'éclaires une fois de plus, parce que je ne connaissais pas cet aspect de Kenneth Branagh.
Oui, qui est d'abord passé un grand metteur en scène aussi lui-même de théâtre et de Shakespeare, et qui est passé
Henri V, qui est remarquable.
Voilà, et qui est passé après derrière la caméra, justement, pour mettre en scène d'une autre manière les pièces de théâtre
et de Shakespeare.
Et ça, en fait,
on le sent quand même, parce que en fait, ces clichés de maison hantée, ça impose une tension au spectateur, et en fait, y a des moments où on ne sait plus à quel moment on doit avoir peur ou bien on peut se détendre. Ouais. Donc, c'est vraiment...
De tout ce que vous dites là et de la bande-annonce donc que j'ai vue, j'ai vraiment l'impression que c'est comme dans une fête foraine, que c'est un grand jeu bien fait, et que ça fait du bien de se...
Complètement.
Alors, à voir donc à Aubenas et la semaine prochaine à Priva. On termine rapidement avec le dernier film sans bande-annonce. Alors, le dernier film, ou avec la bande-annonce? Enfin, c'est même pas la bande-annonce, c'est juste quelques secondes. Quelques secondes de Acide de Juste Philippot, le... Alors je ne sais pas si c'est son deuxième film en tout cas, oui, Après la nuée, voilà, qui était passé aux Rencontres des cinémas d'Europe l'année dernière, je crois, avec Guillaume Canet, Laetitia Deutsch, Patience Munkenbach.
Eh ben, c'est très intéressant, j'allais vous dire sortez vos parapluies, mais ça ne sert à rien parce que c'est tellement acide. Que... voilà. Donc non, c'est vraiment très très intéressant parce que dans le cinéma français, on avait eu toute une période de cinéma fantastique, science-fiction, etc., qui a commencé sous l'occupation avec des films par exemple comme Les Visiteurs du Soir, et puis jusqu'aux années 60 avec les Yeux sans visage de Franju, pour ne citer que ces deux-là. Et puis le film de genre avait un peu, même pratiquement disparu du cinéma français. Et je trouve que depuis quelques années, ça revient en force, et non seulement ça revient en force, mais ça revient avec bonheur. Parce qu'on a vu des choses quand même extraordinaires. Donc, on parlait de la Palme d'Or tout à l'heure, mais le film de Julia Ducournau, Titane, oui, qui, Palme d'Or, il y a quelques années, était aussi un film dans cette obédience. Son précédent film, Grave, était revisité le type du film de vampire. On a vu Dans la brume, il y a quelques années, avec, oui, Romain Duris. On a, oui, vu, oui, L'été nucléaire. Teddy sur les loups-garous, et l'année dernière, Jackie Caillou, également un peu sur les loups-garous, les magnétiseurs. Donc ça revient en force. Tous les ans, on a des films fantastiques, science-fiction, et avec, je trouve, pas mal de bonheur. Et là, ça fonctionne bien. Donc Acide, juste Philippot, effectivement, tu le citais, qui avait réalisé La Nuée l'année dernière sur un élevage de sauterelles qui devient un peu cannibale. S'empare d'un phénomène dont on parle de plus en plus, qui sont les pluies acides. Donc on est dans une région de la France, et c'est l'histoire d'une famille qui va tenter d'échapper à ces pluies acides qui tombent. Alors, c'est des pluies qui sont véritablement acides, c'est-à-dire que même très très vite, une voiture ne te protège plus, quoi. Ça arrive à détruire les toits, et ça fonctionne bien. C'est un véritable cauchemar, et avec une terreur qui vient du ciel, c'est-à-dire, ouais, que là, c'est vraiment très très fort, parce que dès qu'il y a un nuage qui arrive à l'horizon, on s'accroche au fauteuil, mmh, et on sait que ça va pas bien se passer. Donc je vais très rapide, parce que on a pas beaucoup de temps, et ça n'a rien à envier, c'est ce que je voulais dire, ça n'a pas grand-chose à envier au cinéma made in US sur ce genre. Et il y a même des clins d'œil, il y a une séquence qui rappelle complètement La Guerre des Mondes de Spielberg, avec une sur la panique sur le pont. Et on a une autre séquence qui est absolument incroyable, où on a un troupeau de chevaux qui va véritablement fondre sous nos yeux. Enfin, moi, j'ai rarement vu ça au cinéma. Je trouve que c'est un film qui fonctionne très, très bien. Et Guillaume Canet, qui, par ailleurs, pour moi, n'est pas un grand réalisateur, est quand même un très bon acteur, et on le voit là au meilleur de sa forme.
Acide de Juste Philippot, c'est à voir en ce moment à Ruons, et la semaine prochaine sera à Priva et à Vals, et puis à la médiathèque on peut emprunter aussi La Nuée pour se remettre dans le,
qui est également un très bon
dans film, l'ambiance. Ouais. Olivier, tu voulais nous parler
rapidement.
Ouais, très rapidement.
Je me suis penché sur le conseil des fiches du cinéma, enfin plus que penché, sur le dictionnaire des films de Jacques Lourcel. Et j'ai commencé à regarder les articles, et l'avantage de ce dictionnaire, c'est que c'est un dictionnaire de critique, c'est-à-dire que derrière chaque film, on a un avis motivé sur ce film, et c'est très très nourrissant. C'est particulièrement intéressant d'aller voir ce qu'il dit de films qui nous ont marqués, pour voir quel écho ça a eu chez lui. Et comme ce monsieur est quand même très très cultivé, donc c'est le dictionnaire des films de Jacques Lourcel au bouquin. Voilà.
Merci pour ces infos. Juste avant de terminer, deux, trois mots sur l'actualité du cinéma, parce qu'il est très riche en ce moment. Il y a trois festivals qui débutent. Il y en a un qui débute ce soir, c'est à Montélimar, bien sûr, le festival de l'écrit à l'écran. Il y aura aussi les rencontres Cévenoles de Rosières, autre festival dont on va parler mardi 26 dans l'onde curieuse, cinéma donc qui se tiendra du 29 à partir du 29 septembre, 29, 30 et 1er octobre je crois, et cinéma en Vivarais du 2 au 8 octobre, et on en parlera lundi dans l'onde curieuse. Oui.
Oui, un tout petit mot pour terminer. Je conseille fortement Les Feuilles mortes de Coris Maki, dont on parlera la semaine prochaine probablement, qui est un véritable petit bijou en cette rentrée. Et puis le festival national Play It Again,
oui.
Qui trouve des échos dans différents cinémas, avec, je crois, très vite Le Podane de Jacques Demy, La Banquière de Francis Giraud avec Romy Schneider, Thelma et Louise, Diabolomante, Sois belle et tais-toi de Delphine Seyrig.
Sois belle et tais-toi qui est diffusé à Barjac. Jacques, et il y aura, c'est un ciné-discute voilà, avec l'association Boucan qui viendra justement parler autour de cette projection de Sois belle et tais-toi, donc de Delphine Seyrig, mardi 26 septembre voilà, à
20h30. Et également Dancer in the Dark, autre palme d'or, et High School, un film très très rare, un documentaire de Frédéric Wiseman, voilà, de quoi vraiment aller au cinéma tous les jours.
Super, et eh ben merci beaucoup, merci à vous toutes et tous, merci Nico d'avoir réalisé l'émission. On se retrouve donc vendredi prochain pour Cinémascope, mais dès lundi pour quand même parler cinéma qui se passe en Ardèche. Merci et bon film.
Voilà, on va faire ça.
Oui, ça va.
Alors, la caméra passe.
What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt.
No, wounded, sir.
La traversée du Mont Blanc, la neige.